Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Lorsqu'elle reçoit pour le thé Alexis, ils prennent le thé ensemble, Madame Poncet lui demande. Alors Alexis, tu sors beaucoup ces derniers temps. Alexis lui dit, non, pas plus qu'avant et même peut-être moins. Je ne vais plus aux soirées. Madame Poncet lui dit, oui mais tu vas à la campagne. Et avec Gilbert. Alexis lui dit, oui, il est gentil avec moi. Madame Poncet lui dit, tu devrais faire attention, mon petit. Il n'est pas bien, ce jeune homme. Il m'a déjà pris ma fille. Il est très dangereux, c'est un dangereux garçon. Je ne peux pas t'interdire de le voir, mais fais attention. Alexis lui dit, je suivrai vos conseils, madame. Mais avec moi, il a toujours été bien. Il s'est bien comporté. Elle lui dit, je n'en doute pas. Il sait séduire. Le soir, elle dit à sa fille, tu cherches à me dévergonder ce petit, à me le prendre. Nathalie lui dit, il n'y a personne. Madame Poncet lui dit, non, ni au diable, j'espère. Nathalie haut ses épaules. Alexis retrouve au lycée Mathieu et lui dit que Madame Poncet ne veut pas qu'il revoie Gilbert. Elle ne me l'a pas vraiment dit, mais elle me l'a fait comprendre. Je crois qu'il vaudra mieux que je ne le revoie pas. Mathieu réfléchit et lui dit, tu as raison. De toute façon, c'est Madame Poncet qui s'occupe de toi. Il ne faut pas la fâcher. Tu as besoin d'elle. Et lorsque Gilbert propose de sortir avec eux, il refuse. Mathieu aussi. Gilbert, triste et déçu, surpris aussi, demande à Nathalie, lui dit, c'est sa mère qui l'en empêche. Faut pas lui en vouloir. Tu dois les laisser tranquilles. Plus tard, tu pourras les revoir, Gilbert lui dit. Bien, je vais les laisser tranquilles. À Julien qui lui dit, ça doit être la Poncet, quelle garce celle-là. Les jours passent. Mathieu est réveillé par des bruits dans la rue. Ça crie, des sirènes, une lumière étrange en plein jour. Il se lève et voit qu'il y a du feu. Des flammes de partout, de la fumée, des gens qui crient, qui vont dans tous les sens. Les flammes sont très grandes, sont très grandes. Mathieu sort de sa chambre. Sa mère aussi. Il lui demande, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Le feu dans le quartier. Il faut tout de suite sortir. Mettons notre robe de chambre et sortons. Il court. Mettre leur robe de chambre. Et sortent de l'immeuble. Dehors, les gens en pyjama, chemise de nuit. Court dans tous les sens, ça crie, il y a du bruit, il y a des flammes, il y a des murs qui tombent, c'est l'enfer. La mère demande à un passant, un petit vieux, qui a une cinquantaine d'années, cheveux grisonnants, tout maigre, porta la main à un fille bizarre et lui demande « Que se passe-t-il » Il lui dit « M'appelle Pierre Max et il y a le feu. Je fais un reportage pour Radio Métropole pour mon émission à l'équipe du monde. » Elle le quitte et dit « C'est un fou !» et s'éloigne. Il voit une jeune femme, cheveux gris, en chignon, robe de chambre rouge. « Que se passe-t-il ?» La femme lui dit « Des immeubles ont pris feu. D'un coup, ceux de la rue plus loin. » Mathieu dit « C'est la rue de Prudent. Allons-y. » Ils y vont. Il y a de plus en plus de monde dehors. Il y a des voitures qui prennent feu, des murs qui s'effondrent, des cris, des gens qui crient, c'est l'horreur. Un homme crie et dit qu'il n'y a pas de pompiers, pas ni police. Ni police, c'est un spectacle de mort, plutôt de guerre, qu'ils ont sous les yeux. Des blessés ensanglantés ou embouillis. Des gens qu'on essaye de soigner. Des flammes de partout. Des cris. Des immeubles qui s'effondrent. Des gens qui courent. Des gens qui se jettent par les fenêtres. Des vitres qui se brisent. La chaussée est tachée de sang. Plutôt, il y a des marques de sang. La mère et le fils ne savent que faire au milieu de tout ça. Tout d'un coup, Mathieu dit, et Alexis, et lui dit, commence à voir. Il lui dit, allons voir vers son immeuble. Il s'avance au milieu des grabats, des bouts enflammés, des blessés, des cadavres, du sang, des cris, des ruines. Des hommes qui sortent des immeubles enflammés en courant. Ça va dans tous les sens. Une femme crie de sa fenêtre, « Mon bébé, il est mort !» Et elle saute. Les voitures explosent, le gaz explose, les immeubles, les vitres sont brisées, tout explose. Enfin, ils arrivent devant l'immeuble où habite Alexis et sa famille. L'immeuble est en feu, lui aussi. Tout d'un coup, ils voient arriver à eux le père d'Alexis au milieu de tout ça, le regard fou et leur cri. Je viens d'arriver de mon travail lorsque j'ai vu ça. Ma femme, mon fils, il faut absolument les chercher. La mère de Mathieu lui dit, ils sont peut-être sortis. Comment le savoir? Ils sont peut-être encore là. Il se dirige vers l'immeuble. Mathieu a envie de pleurer. Il se dit que son ami est peut-être mort. Alors, il dit au père, je vais voir. Je vais voir, je vais les aider. Sa mère lui dit, non. Mathieu lui dit, j'y vais. Et il s'éloigne d'elle. Elle le suit. Et il réussit à entrer dans l'immeuble. Le feu est dans l'allée, on entend le bruit des flammes. Le bruit des flammes, la fumée. Les escaliers. Sont cassés. Mais praticables, sont impraticables. Alors sans rien se dire, il les monte. Il fait très chaud, les femmes sont près de lui. On entend des craquements. Les portes des appartements vont brûler. Et on voit des flammes dans les appartements. Il monte, essoufflé, asphyxié, aveuglé par la fumée et les flammes. Enfin, ils arrivent dans l'appartement, les prudents. Ce qu'il en reste, tout est brûlé. Ça craque de partout. Il y a des flammes. C'est insupportable. On suffoque. Le père entre dans la chambre. Il y a des flammes de partout. De la fumée. Autour du lit. Et sur le lit, sa femme. Sans connaissance, il va la prendre au risque de brûler, de s'asphyxier, la prendre dans ses bras inanimés et la sort de la chambre. Pendant ce temps, Mathieu est allé dans la chambre de son ami. Des flammes, la fumée. Il le prend inanimé dans ses bras. Alexis. Elle ressemble à un ange. Il est beau, nu. Mathieu sort de la chambre. La mère accourt à lui et veut l'aider à le porter. Mais il s'éloigne et lui dit, c'est plus simple seul, sortons. Et il sort. Il retrouve le père avec sa femme. Ils sortent de l'appartement. Ils ont tout juste le temps de sortir de l'appartement. Ils s'enflamment. Ils deviennent brasiers. Ils ont des difficultés à respirer, descendent les escaliers en vitesse, la fumée, les flammes, la chaleur, les craquements, tout ça leur font peur. Au fur et à mesure qu'ils descendent, les meubles s'effondrent. Ils se trouvent au milieu de gravats enflammés et de la fumée. Force inhumaine les aide. Enfin, ils ne savent pas comment. Ils réussissent à sortir de l'homme au milieu des flammes et des décombres. Puis, Mathieu sort, illuminé par les flammes. Dans ses bras, il y a son ami, inconscient. L'on dirait un dieu. Un dieu. Un dieu dans ses bras. Et puis ils sont dans la rue. Dans la rue, c'est la fin du monde. Le feu, la nuit. Le père se tourne vers la mère de Mathieu et il demande « Que faisons-nous maintenant ?» Il ne sait plus. Il lui dit « Faut pas rester ici. Allons chez moi. Nous verrons s'il y a le feu. S'il n'y en a pas, viendrai chez moi. » La mère les conduit, marche au milieu des débris enflammés, de voitures brûlées, d'immeubles rasés. Des blessés, des morts, du sang, des cris. Arrivé dans la rue où habite Mathieu, elle est en ébullition, mais il n'y a pas d'incendie. Elle leur dit de pouvoir aller chez moi. Elle les mène chez elle. J'entends le bruit et le feu. Les flammes. Enfin arrivé dans son immeuble. L'immeuble est vide. Les gens sont dehors. Attends. Et peut-être aussi pour aider. Elle les fait entrer dans un immeuble et leur dit « Allez, vous allez aussi. » Mettez la femme dans ma chambre et elle ici, dans la tienne, Mathieu. C'est ce qu'ils font. Mathieu dépose un excellent survie. Il est encore inanimé, sans défense. Puis tout d'un coup, il se met à crier. Il est peut-être mort. Sa mère accourt et lui dit. Elle lui caresse les joues et lui dit. Nous allons voir. Se penchant à Alexis, tape la joue. Secoue très fort. Va chercher un gant mouillé. Mathieu va le chercher. Mathieu revient, lui tend le gant. Elle le passe sur le visage de son ami. Il donne des grandes tapes au visage, à la poitrine. Avec les petits, tous, la mère.
Quoi?
Il est tous. Il est en vie. Ça va aller. La mère aussi a repris conscience. Mathieu est heureux. Puis, au bout d'un moment, Alexis ouvre les yeux. La mère Mathieu lui dit, « Ça va ? Tu étais amputé, mais ça va aller. » Alexis pousse encore et reprend les couleurs. Je redeviens normal. Le père va vers eux. Il demande « Comment va-t-il ?» Mathieu lui dit « Il semble aller. » Il reprend ses esprits. Les mères demandent « Et votre femme ?» Il lui dit « Elle aussi. Elle dort. » La mère dit « Il va falloir vous la surveiller. Restez près d'elle. » Il demande « Et mon fils ?» Elle lui dit « Mathieu, va s'en occuper. » Ça va aller mieux. Allez, venez, allons prendre quelque chose. Elle le mène au salon pour qu'il prenne un verre de cognac. De là, on entend toujours le bruit. Le bruit. Des assauts, l'incendie, des explosions. Sont allés se coucher après. La mère a décidé de se coucher au salon, sur le canapé. Ils sont fatigués, mais le bruit des flammes qui éclairent l'appartement, la fumée, la chaleur leur empêche de dormir. Et puis, il faut surveiller les malades. Le père est avec sa femme qui se repose et essaye de dormir. Elle n'a pas encore prononcé un mot, mais elle est sauvée. Alexis dort dans le lit de Mathieu. Des couvertures. Mathieu est sur le lit, à côté de lui. Il sent la respiration de son ami. Il a eu peur qu'il ne soit mort. Petit à petit, Mathieu s'est endormi. Se réveille, c'est le calme, pas le moindre bruit, il y a l'odeur de la fumée. Il vit, il voit de sa fenêtre un décor de décombres, de ruines, des charpentes à nu, des bouts de murs, quelques flammes et fumées, un paysage de guerre. De guerre. De guerre. Il se retourne et voit son ami endormi. Sa respiration semble bonne. Il est beau, les cheveux défaits, le visage calme. Il ouvre les yeux. Voit Mathieu, ou plutôt le visage de Mathieu, contre lui. Lui demande « Où suis-je ?» Mathieu lui dit « Tu as dormi chez moi. Tu te sens comment ?» Allait-il lui fait. « Je sais pas. Faible. J'étais malade. » Mathieu lui dit « Oui, en fait, tu as été asphyxié dans ta chambre. Il y a eu le feu, un incendie dans ta rue. » Tout d'un coup, Alexis devient tout rouge. Je me souviens du chaleur étrange, de fumée et de flammes. J'ai voulu me lever, mais je n'ai pu. Papa, maman, Mathieu lui dit, ne fais pas de soucis. Ils sont chez nous, en vie, et vont très bien. Mais pourquoi sommes-nous chez toi? Mathieu lui dit. Parce que ton immeuble a été complètement brûlé, démoli par les flammes. Alors on vous a amené ici. Je me souviens de rien. Mathieu lui dit. Tu étais sans connaissance. Qui m'a mené ici? Mathieu lui dit. Eh ben, moi. Oui, moi. Mais comment? Alors, il lui raconte qu'il est entré chez lui, aidé de sa mère. Ils ont monté dans l'immeuble. Il faisait très chaud, la peur, le feu, la fumée. Et lui, qui était dans sa chambre, sur son lit. Et il dit, mais tu m'as sauvé la vie, je serai toujours reconnaissant et tu pourras toujours compter sur moi. Mathieu se sent heureux, il a envie d'embrasser son ami. Il s'est dit qu'il pourra toujours compter sur lui. Il se dit qu'ils seront toujours amis pour la vie, oui pour la vie. C'est un rêve pour lui, plus personne ne pourra les séparer, même pas les filles. Il reste un moment comme ça, heureux. Et Alexis dit, et mes parents? Mathieu lui dit, je vais les chercher. Reste au lit. Il se lève à regret, s'habille. Il sort de sa chambre. Pour aller sonner, pour aller frapper à la chambre de sa mère. Entrez, dit le père d'Alexis. Il entre. Le père d'Alexis est assis sur une chaise. Sa mère est au lit. Mathieu demande, elle va mieux? Il lui dit, oui, elle dort. Et vous? Moi, ça va. Mathieu lui dit, Alexis est réveillé? Il aimerait vous voir. Le père lui dit, oui, bien sûr. Alors, il se lève et sort de la chambre avec Mathieu. Ils vont dans la chambre de Mathieu. Alexis, qui voit son père, lui tend les bras. Papa, mon petit. Le père et le fils s'embrassent en pleurant. Puis le fils demande « Et maman ?» Il lui dit « Elle va bien, elle dort. Tu pourras la voir plus tard. » Puis le père dit en regardant Matthieu « C'est grâce à lui si on est en vie. Mon tout petit, il faudra toujours lui en être reconnaissant. » Elsie lui dit « Je le sais. Aussi, je lui en serai toujours reconnaissant. » Le père lui dit « Sans lui, nous ne serions pas là. » Elsie demande « Et chez nous ?» Mon père lui dit « Il ne reste malheureusement plus rien. » Elsie lui dit « Alors, nous avons tout perdu ?»«
Oui, mon petit. »
Matthieu est triste pour eux. On frappe à la porte. Matthieu dit « Entrez !» Entre. La mère de Matthieu, elle demande « Vous allez bien ?» Elle s'approche du lit. Alexis lui dit « Oui, très bien. Merci. » Le père lui dit « Nous vous en serons toujours reconnaissants, madame. » Elle leur dit « Si vous voulez prendre le petit déjeuner, il est prêt. » Et ils sortent de la pièce. Matthieu se lève. S'habille, et lui aussi sort de la pièce. Il va les rejoindre à la cuisine. Asseyez-vous à table. Ils s'assoivent à table. Et la mère les sert. Vous voulez du café?
Oui, merci.
Et ici, lui dit, moi aussi, merci. Mathieu lui dit, moi aussi. Elle sert.
Merci.
Folle qu'elle les a servis, elle dit « Votre femme mangera quand elle sera réveillée.
Merci, madame. »
Et ils mangent. Plutôt, ils boivent leur café.
Le père dit à la mère de Matthieu « Nous avons tout perdu. Nous ne savons pas où aller. »
Elle lui dit « En attendant, j'ai trouvé une solution. Vous vivrez ici. »
Merci, mais c'est trop.
Elle lui dit, il faut bien s'entraider. La mère et le fils se rétablissent petit à petit. Matthieu reste souvent près de son ami. Alexis dit, comment allons-nous faire? Nous avons tout perdu. Même pour aller au lycée, ce ne sera pas possible. Il n'a plus rien. Deux jours plus tard, la mère et le fils sont rétablis. Le père reprend son travail et sa femme décide aussi de reprendre le sien.
Il faut que je gagne ma vie, il ne vaut plus rien.
Elle retourne chez Madame Poncet qui n'avait plus de femme de ménage. Et qui n'en a pas pris une nouvelle.
Lorsqu'elle revient, elle se présente à sa patronne, qui est comme toujours au salon, à la même place, comme un bibelot près de la fenêtre.
Madame Poncet, en la voyant, lui dit « Ah, vous voilà! Vous avez bien failli perdre votre place. J'allais prendre une autre femme de ménage. Que vous est-il arrivé, ma fille ?»
La mère lui dit « Notre immeuble a été incendié et toute la rue aussi. »
Madame Poncet lui dit « J'ai cru entendre cette histoire d'incendie. »
Madame Poncet s'intéresse pas aux nouvelles. Ni elle lit les journaux, ni elle n'écoute la radio, ni voit la télévision.
Si elle apprend quelque chose, c'est par les gens qui lui ont rapporté la chose.
Madame Poncet dit qu'elle s'est trop donnée à la vie active et à l'humanitaire pour se permettre de ne plus s'occuper des affaires de ce monde.
Madame Poncet est peut-être, et je dis bien peut-être, la fille Pontois, le grand humaniste. Voir si c'est elle, Violence et Crépuscule.
La mère lui dit, nous avons tout perdu, et mon fils et moi ont failli être brûlés. Nous avons été asphyxiés par la fumée dans notre sommeil. Nous avons été sauvés in extremis des flammes par le fils et le père servant.
Madame Poncet dit, ma pauvre fille, et vous n'êtes pas venue faire votre ménage.
La mère lui dit, nous avons été indisposés, un peu malades. Mais aujourd'hui, ça va mieux.
Madame Poncet lui dit, ça va bien. Je suis heureuse de voir que vous soyez en vie et que tout va bien, que tout est fini maintenant. Vous pouvez, c'est commencer votre travail. Je ne vais pas vous ennuyer plus. Allez, ma fille.
Bien, madame.
Femme, après cette phrase consolatrice, va faire son ménage. Une fois seule, Madame Poncet réfléchit.
C'est une femme qui a l'air d'être à l'écart de tout et de ne pas s'en rendre compte du côté des conséquences que peuvent apporter les ennuis de la vie. Lorsqu'elle parle comme ça et agit comme ça, elle est comme ça, c'est pour garder ses distances.
C'est Madame Poncet, pas n'importe qui, malgré qu'elle soit à moitié ruinée.
Moitié ruinée, cela veut dire qu'il lui reste en réalité la moitié de sa fortune qui est considérable.
Elle était mariée à un Américain qui avait une belle fortune et elle-même en avait une. Elle a placé son argent et bien placé la moitié de son argent puisqu'elle est à moitié ruinée. Ce qui fait qu'il lui reste, malgré tout, et ceci sans que personne ne le sache, elle est la fortune, une des fortunes les plus grandes du monde. Même sa fille ne le sait pas. Et si elle vit petitement, et
c'est pour cacher qu'elle est si riche, parce qu'elle a peur de certaines personnes. Elle croit qu'on en veut à sa vie et à ses biens, parce qu'elle sait certaines choses dangereuses. Donc cette femme connaît la vie et sait ce que veut dire ne plus rien avoir. Elle n'est pas aussi bête et têtue qu'elle en a l'air. Elle dit, ils n'ont plus rien. Alexis ne pourra sûrement plus aller au lycée. Ça coûte cher les études. Et c'est peut-être un bon moyen pour arrêter toute relation avec lui. Si je ne l'aide pas, il ne peut plus étudier et je me débarrasse de lui. Il m'a déçu en allant, en ayant des relations avec ce Gilbert. Réfléchissons. Est-ce que je le laisse tomber ou est-ce que je l'aide? Si je le laisse tomber, je ne le reverrai plus. Il est assez attachant ce petit, bien de sa personne. Il est bien jeune. Il a eu des rapports avec ce Gilbert, innocemment. Alors, que faire? Je pourrais en trouver un autre. Il y en a beaucoup de pauvres. Ce n'est pas ça qui manque. Oui, mais lui n'est pas comme les autres. Et puis, il est bon élève et sage. Si je le lâche, il va sombrer et devenir un pauvre parmi les pauvres. Elle le voit, pauvre, sale, en haillons. Cela lui fait de la peine. Surtout qu'il a un si joli visage et un corps bien fait. Elle se dit, je vais l'aider. Alors elle sonne pour faire venir la bonne. C'est vrai qu'il est gentil ce petit. Et puis, avec mon aide, je suis sûr qu'il réussira. On a frappé à la porte. Entrez! Entre la bonne, elle lui dit, dites à la femme de ménage de venir me voir. Bien, madame. Et la bonne se retire. Ma fille m'a déçu. Et ce n'est qu'une fille. Ça ne pense qu'à courir. Et puis ses études. Avec ce qu'elle a choisi, elle risque, c'est de me créer des ennuis. Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.